Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
Avez-vous une confiance aveugle envers votre conseiller financier dans les institutions financières? C'est la question qu'on se pose parce que le réseau CIBC a démontré récemment que les conseils puis leurs qualités qui sont données dans certaines institutions financières, c'était pas nécessairement les meilleurs conseils, les plus pertinents. Et ça pouvait laisser à désirer dans la qualité. Est-ce que c'est parce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est parce qu'on met beaucoup de pression sur ces conseillers pour vendre des produits financiers? On se pose la question, on a la meilleure personne pour y répondre. C'est Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion Patrimoine. Jean-Sébastien, les conseillers financiers qui donnent des conseils, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle la qualité puis la compétence derrière ça?
Ben, tout à fait, Yasmine. En réalité, là, il y a leur institution financière qui ont quand même un département de conformité hein, qui a habituellement aucun rapport avec le département des ventes. Hein. C'est important que ces deux-là soient ne travaillent pas. Ils vont collaborer, on s'entend, mais c'est important que le département de conformité pour l'institution financière s'assure de la qualité des affaires de l'institution financière. Les actionnaires vont demander ça de toute façon, là, la qualité des affaires de tout ça. Donc, il y a premièrement les institutions financières qui vont regarder ça. Les cabinets de courtage ont également leur équipe de conformité interne. Mais au-dessus de tout ça, il y a l'autorité des marchés financiers, Yasmine, qui, elle, va mandater la Chambre de la sécurité financière pour contrôler tous les conseillers. Donc, quand on dit les contrôler, c'est au niveau de leur formation continue, la déontologie, la discipline également. Donc, c'est la Chambre de la sécurité financière et l'autorité des marchés financiers qui vont surveiller les conseillers et vont donner des infractions, des sanctions si jamais il doit y en avoir.
Ils agissent un peu comme un ordre professionnel, sans être un ordre professionnel, où ils peuvent distribuer finalement des pénalités pour manque de diligence ou s'il y a un problème. Mais au-delà de ça, pour quelles raisons les conseillers peuvent être réprimandés? Est-ce qu'il y a des points particuliers là, que l'on surveille chez la Chambre de la sécurité financière et l'autorité des marchés financiers?
Ma curiosité m'a amené à faire des petites recherches justement sur qu'est-ce qui revient souvent comme infraction. Tu sais, Yasmine, quand on dit infraction, souvent les gens, le but aujourd'hui, c'est pas de dire faites attention, tu sais, vous allez vous faire avoir. Il y a 34 000 conseillers financiers à travers la province. Puis c'est sûr quand il y a un groupe comme ça, ben, puis c'est en plein emploi aussi les conseillers, il en manque. Là, toutes les institutions financières affichent des postes. Mais reste qu'il y a quand même, comme dans n'importe quel groupe, des déviants. Mais quand on dit une infraction, ça ne veut pas dire une fraude majeure ou une fraude mineure. En fait, j'ai sorti un peu les infractions qui revenaient le plus souvent. Puis dans une de ceux-là, c'est agir au-delà de sa certification. Parce que un conseiller en service financier, est-ce qu'il peut avoir plusieurs chapeaux et ça prend des certifications différentes selon ces chapeaux-là. Puis l'exemple que je peux te donner qui revient souvent, c'est le volet planification financière. Oui. Le mot planificateur financier, on en a même déjà parlé, c'est des gens qui ont ce titre-là de planificateur financier. Le titre est protégé, c'est des gens qui ont plus d'éducation, entre guillemets, là, qui ont suivi des certifications plus poussées en termes de planification financière. Et il va y avoir des conseillers qui vont utiliser ce terme-là, qui vont dire qu'ils font de la planification financière, quand en réalité, ils ne le sont pas. Donc ça pourrait être ça va être une infraction qui pourrait être sanctionnée par la Chambre de la sécurité financière. Donc, le titre de planificateur financier, c'en est un, ou comme si quelqu'un, par exemple, va émettre des recommandations sur les produits d'assurance vie ou les produits d'assurance invalidité que tu détiens, Yasmine, mais il n'y a pas sa certification en assurance invalidité. Donc, le but ici, c'est de protéger les gens parce que je ne suis pas supposé d'émettre des recommandations si je n'ai pas cette certification-là là-dedans.
Ça, c'est pour les conseillers financiers, mais qu'en est-il de tout le volet fraude? Parce qu'on est quand même, ils jouent avec nos finances privées, nos finances personnelles, accès à nos comptes, à nos placements, et connaissent finalement nos plans de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui surveille ces conseillers financiers-là pour qu'ils ne commettent pas de fraude?
Ouais, ben, leur institution financière, comme je dis, elle a une bonne protection au niveau des fraudes. Tu sais, depuis, en fait, pour travailler dans des institutions financières ou dans des cabinets de courtage, si, mettons, le conseiller voulait faire des fraudes, c'est beaucoup plus difficile que ça l'a été parce que, justement, à cause du passé, hein, puis, les conseillers financiers, on a un peu le chapeau de... On est des vendeurs de placement, on est des vendeurs d'assurance. Puis, ben ça, je ne le nie pas parce que, en fait, on a des gens dans le passé qui ont un peu sali parfois la réputation des conseillers. Puis aujourd'hui, ben, les conseillers qui travaillent très bien, qui ont une bonne éthique, ben, en vivent encore certaines conséquences là-dessus. Mais ben, fait en sorte que le travail d'un conseiller aujourd'hui est beaucoup plus difficile parce que, ben, justement, les équipes de conformité interne vont demander beaucoup plus de vigilance des conseillers. Ça amène une charge administrative, mais ça protège le public. Ouais. Je pense qu'au final, ce qui est important, c'est de protéger le public. Une infraction qui peut revenir, qu'elle, elle touche plus la fraude, Yasmine, c'est la falsification de signature. Puis parfois, quand on dit falsification de signature, on s'en va tout de suite vers une fraude, mais la majorité des falsifications de signature, les conseillers l'ont fait, je vais le mettre en guillemets, de bonne foi. Leur but, c'était d'aider leurs clients parce qu'exemple, on se rend compte aujourd'hui, on fait tous les trucs, puis là, j'ai oublié de le faire signer, mais on est à Montréal, puis t'as fait le trajet jusqu'à Brossard, par exemple, puis là, ben, OK, ben, regarde, on va faire une falsification. Mais, tu sais, une signature, Yasmine, ça vaut tellement beaucoup, point de vue légal, là. Fait que, peu importe que c'était fait de bonne foi ou de mauvaise foi.
Mais aujourd'hui,
une falsification de signature, c'est grave, là.
Mais aujourd'hui, on peut signer à distance. Il y a des signatures électroniques. Est-ce qu'il y a encore, premièrement, un justificatif à faire des falsifications de signatures, entre guillemets, de bonne foi? Et deuxièmement, est-ce que c'est encore fréquent ce genre de fraude-là, étant donné l'intégration de la signature électronique?
Ben, comme tu dis, en fait, la pandémie a fait en sorte que les institutions financières ont embarqué dans le volet signature électronique. Et cette personne-là là, qui voulait faire sauver du temps à son client ou se faire sauver du temps à lui, ben aujourd'hui, je vais ouvrir un outil comme un outil Adobe Sign, peu importe les outils. Je vais rentrer les informations, je t'envoie ça en courriel, ça va te prendre 30 secondes à regarder puis à signer. Fait que pour ça, c'est plus. Je serais curieux de voir les falsifications de signature, le nombre, mais je suis convaincu qu'il a diminué parce que justement, cette personne-là qui voulait faire ça, ben aujourd'hui, il y a tous les outils technologiques pour le faire en 30 secondes. Là.
Ça ressemble à quoi les sanctions finalement quand on se fait pogner, ben quand un conseiller financier se fait pogner, que ce soit avec une fraude ou finalement une non-conformité?
Ben, c'est une fraude, ça va être très grave, là. Ça va être une radiation, ça peut aller jusqu'à une radiation permanente en fait là, de sa pratique. Puis après ça, il peut y avoir des accusations criminelles. Là. Ça sera pas la chambre qui va gérer tout ce volet-là, la chambre de la sécurité financière, mais ce qu'on peut voir, par exemple, ça peut être des infractions comme aller suivre une formation additionnelle là-dessus, là, quand on aurait une petite infraction. Ça pourrait aller à une radiation temporaire de un mois. Il peut y avoir des amendes qui sont données également par la Chambre. Et jusqu'à, ben, le pire, c'est la radiation qui est permanente. Donc, tout dépendant la gravité de l'infraction et tout dépendant également les récidives, là, si ça fait plusieurs fois que tu es supposé faire une analyse des besoins de tes clients, puis tu la fais jamais, ben, à un moment donné, la sanction elle va être plus grande qu'à avoir une radiation qui est permanente.
Faut faire attention, faut suivre ses finances, puis un conseiller financier, c'est bien. Un conseiller financier compétent, expérimenté et honnête, c'est encore mieux. Jean-Sébastien Jutras de Jutras Gestion de patrimoine, merci beaucoup pour toutes ces explications.
Merci, Yasmine.
Au revoir.